Colombia Samiana. Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. Nous sommes dimanche le 13 novembre 2022. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, vous êtes avec Joséphine Johnson-Gundimana. Ouvrons cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée par cette brutalité policière dont le responsable provincial des renseignements à Muyinga se serait rendu coupable lors d'une fouille policière à la prison pour femmes de Muyinga. Des prisonnières, parmi elles la journaliste Floriane Ilangavie, ont été victimes de mauvais traitements samedi de la semaine dernière de la part des policiers dirigés par le commissaire Félix Abjelimana. On fait le point avec Georges Nimenya.
Cette fouille a été opérée samedi dernier dans l'après-midi à la prison pour les femmes de Muyinga sous la direction du chef de service de renseignement provincial, le commissaire Félix Abjelimana. Des sources de la prison affirment que la journaliste Floriane Ilangavie était la cible de son commandant de police et était suspecté de détenir un téléphone dans sa cellule alors que cela n'est pas autorisé chez les prisonniers. Toutes les cellules de femmes ont été fouillées de fond en comble par une vingtaine de policiers. Des sources de la police pénitentiaire affirment en effet qu'il s'agissait d'une opération de routine. Mais à l'intérieur de la prison, des témoins ont dénoncé une violation flagrante des droits de ces femmes en détention de la part du chef des renseignements, celui-ci s'acharnait particulièrement à la journaliste Floriane Ilangavie. Et dans les termes grossiers, Félix Abjelimana a ordonné de fouiller la journaliste jusque dans ses parties intimes pour vérifier s'il n'aurait pas caché son téléphone. Ces femmes prisonnières de Muyinga ont voulu s'opposer à la brutalité avec laquelle les agents de police se sont exécutés en violant les règles de procédure qui empêchent pourtant aux hommes de fouiller dans les cellules des femmes. À la demande des minimums de respect des droits de la femme en détention, le chef des renseignements provincial a répondu, je cite, « C'est nous qui avons le droit de vous l'accorder et de vous le retirer. » Fait de citation. Au cours de cette fouille et perquisition, dans cette prison pour les femmes de Muyinga, 9 téléphones au total ont été saisis selon les sources de la police pénitentiaire.
Son comportement de responsable des renseignements à Muyinga a été condamné par les défenseurs des droits humains. Le Forum pour le renforcement de la société civile réclame des poursuites judiciaires contre lui. Pour Ernest Murundiza, secrétaire exécutif du FORSC, Floriane est victime de sa profession de journaliste.
L'injustice et la torture qui sont en train d'être faites à l'endroit du journaliste de la radio Gichanelo, Floriane Ilangavie, et d'autres Burundais présumés opposants du régime CNDD-FDD sont inimaginables et inhumaines. Entendre que le chef du service national de l'enseignement en province de Muyinga ose dire qu'il a tous les pouvoirs sur Floriane, qu'il peut même commanditer à ses subalternes de fouiller même dans la partie intime de la détenue, ça fait honte. Ça frise le ridicule pour une personne qui est censée être au service de l'État. Un prisonnier reste un être humain qui a droit au respect et à la valeur humaine. Comme il a besoin de respect, le chef du SNL a l'obligation de respecter ses prisonniers conformément à l'exigence de la loi. Il ne faut pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, dit-on. Floriane est en train d'être victime des émissions faites sur l'antenne de sa radio Gichanilo, des dossiers qui ont été faits sur certains sujets dont la gestion a sali le pouvoir, a sali le régime du CNDD-FDD. Dénoncer ce qui ne marche pas dans son pays n'est pas du tout un crime. Nous demandons au pouvoir burundais de mettre un terme à l'injustice et à la persécution dont est victime Floriane Ilangavie et d'autres Burundais qui souffrent derrière les barreaux alors qu'ils sont innocents.
Cette semaine, cette achève a été également marquée par l'insécurité dans le camp des réfugiés à Kakuma, au Kenya. Lundi dernier, 3 d'entre eux ont été victimes d'une agression physique dans des endroits différents. Parmi les agresseurs figurent les réfugiés sud-soudanais qui vivent aussi dans ce camp. Les détails avec Karine Doussabé.
Les informations recueillies par la radio Inzamba au sein de certains réfugiés de ce camp révèlent qu'un certain Justin Katimi, un homme âgé de 47 ans, vivant dans Kakuma 2, dans le deuxième bloc, est tombé dans une embuscade tendue par les Sud-Soudanais à l'intérieur du camp. Il a été sérieusement tabassé par ces malfaiteurs. Les réfugiés burundais de ce camp déplorent que le climat qui règne entre eux et les réfugiés sud-soudanais du camp de Kakuma n'est pas du tout bon. Ils interpellent le HCR et la police kenyane de suivre de près cette question.
Il était visible qu'ils étaient en réunion et ils sont tombés dans leurs mains. Ils les ont tabassés très sérieusement et poignardés au niveau de la tête et des côtes. Très tôt dans la matinée, il est apparu quelqu'un d'autre et c'est la troisième personne qui a subi le même sort. Il a été blessé au niveau de l'œil. Ce dernier a été soigné et est rentré chez lui. Les deux autres sont toujours hospitalisés. Nous, ce que nous constatons pour le moment, cela arrive après qu'ils aient tué le nôtre André et certains membres de sa famille emprisonnés puis relâchés. Il est visible qu'il y a un très mauvais climat entre les Burundais et les Sud-Soudanais. Ils ne veulent pas du tout la paix pour les Burundais. Nous implorons à tous ceux qui peuvent élever la voix de plaider pour nous au sein du HCR pour que notre sécurité soit rassurée.
Face à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Inzamba a contacté par téléphone Georges Kanyango, le responsable de la police dans ce camp, pour plus de détails sans succès.
Les réfugiés burundais du camp de Kakuma au Kenya inquiètent beaucoup la coalition burundaise des défenseurs des droits des réfugiés vivant dans les camps CBDH Vicar. Cette organisation compte par ailleurs saisir les juridictions de la sous-région pour que les auteurs de ces crimes soient arrêtés et traduits devant la justice. Écoutez Léopold Chalangabo, vice-président de la coalition CBDH Vicar.
Nous sommes vraiment préoccupés par ces crimes qui sont souvent perpétrés contre les réfugiés burundais qui se trouvent dans le camp de réfugiés de Kakuma. Et nous déplorons le comportement de la police kenyane qui n'inquiète pas sur ces crimes parce que l'impunité cause la multiplication des groupes de malfaiteurs qui causent souvent l'insécurité dans les camps de réfugiés. Une fois la police kenyane continue à négliger ces incidents, nous allons continuer à sortir des déclarations et de dresser des correspondances, bien sûr en commençant par le Kenya et aussi la société pour leur montrer la situation sécuritaire dans le camp de réfugiés. Nous allons même prendre une décision de traduire en justice près de l'IAC, le gouvernement kenyan. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement kenyan de sécuriser les réfugiés et aussi de mener une enquête profonde pour que ces criminels soient arrêtés.
Au chapitre de la sécurité régionale, les forces armées des pays membres de l'EAC se préparent pour combattre du côté des forces congolaises FARDC pour anéantir les mouvements qui déstabilisent l'est de la RDC. C'est ce qu'a indiqué le mercredi dernier le chef de l'État burundais de son retour de l'Égypte où il participait à une conférence internationale sur le climat, la COP27. Évariste Ndayishimiye a fait savoir qu'en qualité de président de l'EAC, il sera à Nairobi le 16 de ce mois pour lancer les pourparlers entre ces mouvements et le gouvernement congolais. Écoutez.
Nous avons constaté ces derniers jours qu'il y a un mouvement qui n'a pas déposé les armes comme convenu. Au lieu de cesser le feu, il a par contre intensifié les combats. On s'est donc réunis pour analyser ensemble ce qu'on peut faire. Nous avons décidé ensemble, comme convenu, de déployer nos troupes pour combattre ensemble ce mouvement qui ne veut pas déposer les armes. L'urgence pour le moment, c'est de déployer des forces au poste de commandement régional en attendant que tous les pays envoient leurs troupes pour secourir la RDC. Cela signifie que tous ces pays seront là pour travailler avec la RDC. Nous aurons à travailler avec les forces des Nations Unies, de la MONUSCO, SADC. Nous devons nous unir avec toutes ces forces. C'est pourquoi nous organisons une réunion avec elles. C'est dans ce cadre qu'il a été décidé que je dirige la cérémonie de l'ouverture des négociations à Nairobi dans le but de les valoriser.
Avant de clore cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine, qui s'achève, abordons ce chapitre de l'économie. Près de 100 milliards de francs burundais, c'est le montant prévu pour la réhabilitation du port de Bujumbura. Les travaux de rénovation vont démarrer en janvier prochain, selon la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, Marie-Chantal Ndjimbele. Ce projet facilitera les échanges commerciaux avec les autres pays et permettra d'accroître la performance des recettes via le lac Tanganyika. L'entreprise qui a signé le contrat de réhabilitation de ce port est appelée à bien exécuter son travail et à achever les travaux dans les meilleurs délais. La ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, Marie-Chantal Ndjimbele.
Le gouvernement de la République du Burundi a bénéficié d'un don émanant de la tripartite Union européenne, Banque africaine de développement et du gouvernement du Burundi en vue du financement du projet multinational Burundi-Zambie de développement du corridor de transport sur le lac Tanganyika. La phase 1 consiste à réhabilitation du port de Bujumbura. Il est prévu qu'une partie des ressources de ces dons soit utilisée pour exécuter les travaux de réhabilitation du port de Bujumbura et ses voies d'accès. Nous saisissons cette occasion pour remercier vivement l'Union européenne et la Banque africaine de développement pour avoir pris le lead dans la mobilisation du financement de ce grand projet d'infrastructure qui va nous permettre d'accroître la performance mais aussi les recettes via le transport sur le lac Tanganyika. Nous saisissons cette occasion pour féliciter l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, l'agence d'exécution du projet, pour les efforts fournis en vue d'aboutir à cette étape cruciale de signature de contrat des travaux. C'est dans cette optique que nous interpellons l'entreprise Kurik Contracting Company, qui vient de signer le présent contrat, à faire tout son possible pour démontrer son expertise, mais aussi sa technicité, pour que les travaux soient achevés dans les délais de 24 mois tels que prévus dans le dit contrat. Nous recommandons aussi à l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, l'agence d'exécution du projet, à offrir des facilités offertes par le présent contrat pour permettre à l'entreprise d'exécuter les travaux sans entrave.
Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Passez une excellente journée chez vous et un très bon dimanche. À la prochaine.
Zambia Samiana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.